France Inter.
Écrivain à la plume poétique profonde et ciselée, Mohamed Mbougarsar est né à Dakar et fut un élève du Prytanée militaire de Saint-Louis, toujours au Sénégal, avant de poursuivre ses études supérieures en France, prépa, puis EHESS, où il se distinguait déjà par son excellence, sans savoir encore à quelle carrière il se destinerait. L'érudit s'imaginait médecin comme son père ou footballeur, avocat, militaire, et je ne cite pas tout. Son entrée en littérature se fera plutôt comme médecin de fiction, sur un navire transportant des esclaves à travers sa nouvelle « La Cale ». Suivront le roman « Terre Sainte », décrivant la vie d'une petite ville sahélienne mise sous la coupe de milices islamiques djihadistes, « Silence du cœur »,« De purs hommes » ou encore « La plus secrète mémoire des hommes », couronnée par le prix Goncourt. Le polyglotte qui maîtrise une demi-douzaine de langues ne parle pas encore parfaitement espagnol, mais comme la littérature n'a fort heureusement pas de frontières, ça ne l'a pas empêché de signer une réjouissante et riche préface pour les œuvres complètes à quatre mains des écrivains argentins Borges et Bioy Casares, qui viennent de paraître aux éditions Segers dans une traduction de Margot Nguyen Béraud, Eduardo Jiménez et Françoise-Marie Rosset. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Mohamed Mbougarsar.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Pardon de rester très platement littéraire, mais j'étais très heureux de voir le Hongrois Laszlo Krasznahorkai recevoir le prix Nobel de littérature il y a quelques semaines. Non qu'il ait besoin de ça pour être un grand écrivain, mais je suis heureux que plus de monde ait la chance ou peut-être l'opportunité de le découvrir. C'est un écrivain que j'aime particulièrement. Autrement, hier, j'étais en train de lire le dernier livre publié au Tripode de l'écrivain argentin, décidément, Juan José Sayer, Nadie Nunca Nada, qui est un excellent texte comme tout ce que Sayer écrit.
Qu'est-ce que vous recommanderiez du prix Nobel pour commencer?
Je pense qu'on peut commencer par un tout petit texte publié aux éditions Cambourakis qui s'appelle Le Dernier Loup. Autrement, dans ses grands romans, disons, j'ai une affection particulière pour la mélancolie de la résistance et pour une scène particulière de ce texte qui est une danse cosmique qui inclut le soleil, la terre, la lune, un débardeur qui est ivre, un échalas qui est un chauffeur. Et puis un idiot au sens dostoïevskien qui s'appelle Valuska.
Voilà. Donc au cœur noble. Est-ce que vous me permettez de vous poser les questions que Béatrice pose à Diegan dans votre livre « La plus secrète mémoire des hommes » ?
Si je les avais encore en mémoire, je dirais peut-être sans doute non, mais comme j'ai tout oublié, je suis c'est bon.
D'accord. À quoi tenez-vous ?
Parce que je ne sais pas nager, je tiens beaucoup à la mer. Il y a quelque temps, on m'a demandé ce que je souhaiterais voir disparaître en dernier sur Terre, et j'ai répondu la mer. La personne en face pensait que je parlais de ma propre mère, celle qui m'a mise au monde, mais je parlais de la mer, tout simplement, que j'adore regarder, même si je n'y mets jamais un pied.
À quel désir êtes-vous soumis?
Alors ça, c'est vraiment très difficile parce qu'il y en a plusieurs, mais je crois que le plus tyrannique, qui est à la fois extrêmement difficile à énoncer parce qu'il semble très prétentieux, mais en même temps, s'il faut être honnête et devant vous, je pense qu'il faut toujours l'être. Bon, on n'a pas trop le choix de toutes les manières.
Vous connaissez l'émission.
Oui, c'est vraiment l'idée de pousser toujours un peu plus loin le travail littéraire qu'on mène. Donc c'est un désir d'aller toujours plus loin dans l'inconnu que les œuvres qu'on a à écrire nous proposent ou qu'on a à lire, ce qui est toujours mieux. Donc voilà, c'est toujours un désir d'égarement. Voilà.
Pourquoi égarement? Ça me paraît plutôt une façon de trouver son chemin.
Oui, mais en même temps, je ne suis pas certain de vouloir le trouver. Exactement. Je crois qu'il y a peut-être deux écoles en la matière. Ceux qui cherchent pour trouver et ceux qui cherchent simplement pour le plaisir de chercher et qui admettent que la perte fasse partie de l'expérience et qu'elle soit peut-être même l'expérience.
Vous en accommodez aisément?
Pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où la nature humaine étant ce qu'elle est, je veux m'accrocher à quelque chose. Mais la plupart du temps, je suis plutôt heureux de ne pas savoir où je suis, que j'écrive ou que je lise d'ailleurs.
Encore deux questions de votre livre.
Ah. À quoi j'ignorais qu'il y en avait autant.
Non, mais j'en ai posé que deux pour le moment. À quoi êtes-vous fidèle?
De façon tout à fait presque systématique, j'allais répondre à mon enfance, mais c'est tout à fait faux, puisque dans le même livre, il y a tout un passage où je dis qu'il ne faut pas être fidèle nécessairement à ce qu'on a été enfant, et c'est pour ça que l'enfance est tout à fait aimable. À quoi suis-je fidèle? Eh bien, la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire au rêve que j'ai d'un texte dont je ne connais rien, mais dont je pense qu'il est là quelque part et qui m'attend, et je pense que je suis fidèle à son appel et à son rendez-vous, au dialogue auquel il me convie régulièrement. Mais tout cela semble tout quand même un peu abstrait. Mais je suis très fidèle. Là, pour le coup, je vais revenir à mon enfance. Je suis très fidèle à mes amis d'enfance. Vous avez rappelé mon ex-passage au Pritané tout à l'heure. Je suis très fidèle aux souvenirs que j'ai avec ces amis-là et aux rires qu'on a eus. Je les entends encore, ces rires. Je suis très fidèle à ça. Ouais.
Où est votre feu ?
En ce moment, disons qu'il est sous la cendre. Il n'est pas tout à fait éteint, mais il est là quelque part. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être tout le temps flamboyant et incandescent. Voilà. Il y a des moments aussi de grande accalmie et je suis dans ce moment-là. Donc le feu est quelque part. Voilà, il faudra le retrouver. Mais...
J'avais reçu l'écrivain franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy qui avait confié à ce micro changer de personnalité selon qu'il parlait espagnol, sa langue maternelle ou français. Vous, votre langue maternelle, c'est le sérère. Vous parlez également wolof, peul, français, anglais, un peu d'allemand. Est-ce que la grammaire des langues que vous parlez ont influencé la musique de votre verbe à l'écrit ?
De plus en plus, j'ai l'impression que ces grammaires influencent mon écriture en français. Au départ, donc quand j'ai commencé à écrire, non, parce que je pensais qu'il y avait un rapport assez direct au français qui avait supprimé toutes les interférences qui pouvaient venir des autres langues. Avec le temps, je me rends tout de même compte que je le veuille ou non, et ça commence d'ailleurs par le fait de ne rien pouvoir y faire. Les autres langues s'immiscent, arrivent, court-circuitent le français et réclament de plein droit et de façon tout à fait légitime leur droit à être des sous-langues. Et quand je dis sous-langue, c'est vraiment au sens physique de la chose. Ce sont les langues qui portent le français, qui sont en dessous. Donc oui, elles arrivent de plus en plus. Le wolof arrive de plus en plus. Le sérère arrive de plus en plus. Mais je dirais que quand j'écris, l'impulsion première vient d'abord en français. Et c'est ensuite, et j'attends ce moment avec de plus en plus de hâte, les autres langues arrivent comme des astéroïdes qui viennent comme ça percuter une trajectoire qui semblait très, très nette, très limpide au départ.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Mohamed Bougarsa, vous avez grandi au Sénégal entre un père médecin et une mère, des grands-mères et des tantes, conteuses de récits sérères qui ont nourri votre imagination. Est-ce que vous avez un conte qui a particulièrement compté pour vous ? Est-ce que le réel n'a pas été trop décevant en comparaison ?
Le réel est toujours un tout petit peu décevant, de toutes les manières, mais c'est pour ça aussi qu'il est intéressant, parce qu'il vient nous demander pourquoi est-ce qu'on le trouve décevant. Et là, chacun a une réponse. Pour ma part, il se trouve que j'ai toujours eu l'impression que le réel n'offrait pas la liberté aux individus qu'on pouvait trouver dans les contes, et qu'il n'offrait pas, surtout, une sorte de mélange des genres, des espaces et des temps que je trouvais dans les contes. Je trouve que ce qu'on appelle le réel, ça c'est une autre question de le définir, mais ce qu'on appelle le réel est vraiment assez linéaire. En tout cas, on le vit de façon linéaire, quand bien même j'ai l'impression qu'intérieurement, c'est un chaos total d'espace, de temps, de langue, de bruit, de sollicitations, de stimuli. Et ça, je le trouvais dans les contes. Ma grand-mère était une conteuse assez extraordinaire, et ce que j'ai toujours trouvé très beau dans ses contes, c'est qu'elle arrivait à me faire comprendre que ce qui était le plus important dans un conte, ce n'était pas ce qu'elle était en train de me raconter, mais le temps et l'espace qui s'ouvraient pendant qu'elle était en train de me raconter la chose. En sorte qu'elle pouvait tout à fait, bon, c'était aussi pour tester mon attention, introduire soudain un personnage qui n'était pas dans le conte, qui était pourtant le même qu'elle m'avait raconté quelques jours avant, parce que j'aimais beaucoup les répétitions. Donc elle introduisait un personnage nouveau et voyait si je réagissais ou non. Et ce qui était toujours très drôle, parce qu'elle était très facétieuse, c'est que si je réagissais, c'était bon signe. Si je ne réagissais pas, c'était aussi bon signe. Ça veut dire que j'étais accroché à autre chose. qu'à juste ce qui était raconté et que l'espace du conte était parfaitement ouvert.
Ces poètes nègres, vous les comparez à ces voyants que l'Europe enferme dans ses prisons-asiles.
Oui, ce sont les fous. Pour la civilisation classique, pour la philosophie classique, le fou est un anormal qui ne voit pas le monde tel qu'il est. Et vous savez que les poètes surréalistes ont insisté sur l'apport du monde intérieur, du monde des rêves et même de la folie. En Afrique noire, les fous ne sont pas considérés comme des anormaux, au contraire, comme les vrais normaux. Il y a eu une sorte de dégénérescence du bon sens, n'est-ce pas, de la raison intuitive au bon sens. Et en Afrique noire, les fous sont considérés avec beaucoup de vénération. On ne les abandonne pas, on leur laisse faire toute leur fantaisie.
Une des plus belles langues qui existent, Léopold Sédar Senghor en 61 sur la RTF au micro de Pierre Dumayet. Mohamed Mougarsar, vous avez fait une thèse sur lui, je crois, que vous avez interrompu. Il a été président du Sénégal, ministre en France, poète, académicien. Est-ce que vous imaginez un avenir similaire ?
À celui de Senghor ?
Oui.
À mon Dieu, non. Jamais. De toute façon, je pense que c'est trop tard. Mais...
Non.
Non. Non, parce que je pense que c'est lui-même qui déconseillait aux écrivains de se lancer en politique. Il disait qu'on pouvait faire de la politique autrement, mais à la fin de sa vie, il a dit et répété que s'il fallait qu'on retienne quelque chose de toute sa vie, ce devait être son œuvre poétique, et que son œuvre politique était presque arrivée par accident. Je ne le crois pas tout à fait, mais je pense que l'œuvre politique n'était pas un accident chez lui, parce qu'il a fini par être très très doué et par être un homme politique plein dans tous les sens, y compris dans celui de la dureté qu'il faut parfois. Mais globalement, je pense qu'il est sincère quand il dit qu'il faut garder la poésie avant tout. Et voilà, moi je n'ai aucune appétence aujourd'hui pour la politique, même si comme tous les enfants sénégalais qui ont un début de scolarité prometteur, on vous annonce tout de suite que vous allez être président de la République et vous le croyez.
Quand vous êtes arrivé en France, vous êtes arrivé à Compiègne et quand on vous demandait pourquoi ce choix de la France, vous répondiez, je vais vous citer parce que c'est très beau, de grands vocables aux pesantes majuscules, littérature, humanisme, philosophie, république, lumière, droit de l'homme, égalité. Je n'ignorais pas, pour être né et avoir grandi sur une terre où elles avaient eu cours et laissé de profondes cicatrices, les atrocités que la France avait commises au nom de ses nobles emblèmes et principes. Mais je ne voulais pas juger tout un pays qui m'accueillait pour me former en le réduisant à son passé ensauvagé et criminel. J'arrivais donc à Compiègne, il ne fallut pas un trimestre pour que la vie politique française acheva de me déniaiser et de me dépiter. Alors vous êtes un des 10 co-auteurs de l'ouvrage collectif « Politisez-vous ». Racontez-nous, vous êtes politisé ?
Oui, je le suis. D'abord parce que comme tout le monde, je pense que j'ai des opinions politiques qui valent ce qu'elles valent. J'ai des goûts et des dégoûts politiques. Mais aussi parce que j'observe très précisément la vie politique de la France, mais surtout du Sénégal, toujours. Et que lorsque j'estime que c'est nécessaire et que ça a une petite valeur ajoutée au débat public, je n'hésite pas à prendre des positions qui, encore une fois, valent ce qu'elles valent, sont parfois naïves, parfois excessives, mais sont celles-là. Voilà. Je ne dirais pas que j'ai un sens politique très aiguisé, fin, mais il a l'avantage et la limite d'être toujours sincère. Mais il ne s'exprime que quand vraiment je juge qu'il a un petit intérêt ou que je n'arrive plus à le contenir. Voilà.
Vous avez toujours tenu à la nuance et j'aime bien qu'on découvre des œuvres dans cette émission. Et pouvez-vous nous dire un mot de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kané ?
Alors, c'est un livre qui est assez extraordinaire parce qu'il est arrivé, et peu de livres font ça, je trouve, à formuler, à synthétiser une question et à la formuler en sorte qu'elle traverse comme ça les siècles sans jamais perdre de sa substance. Et cette question était toute simple, c'est une question qui vaut pour des pays qui ont été colonisés et qui se demandent si, après les indépendances, elles seront toujours colonisées ou non. Cette question est toute simple, ce qu'on gagne quand il y a un contact avec le fait colonial, vaut-il ce qu'on perd, ce que le fait colonial nous enlève? C'est une question donc profondément philosophique que Cheikh Hamidou Kane a réussi à couler dans un roman qui raconte l'aventure d'un jeune homme dans le nord du Sénégal qui s'appelle Samba Diallo. Et Samba Diallo est un excellent petit Foutanke, donc qui vit donc dans ce pays qui s'appelle le Fouta, cette région du Sénégal qui s'appelle le Fouta, qui possède les rudiments de sa culture Peul, qui possède les rudiments de l'école coranique et qui est aussi tout à fait excellent lorsque l'école française arrive. Il acquiert les codes, il acquiert les rudiments, il acquiert le savoir, ce type de connaissances, le fait d'avoir toujours raison, d'une certaine manière, comme dirait Schopenhauer, de vouloir toujours avoir raison. Et voilà, tout le roman réfléchit à cette aventure ambiguë qui est la sienne, qui est celle de naviguer entre deux cultures, deux histoires, et puis deux façons de se rapporter au réel. Et c'est un roman qui est un classique sénégalais, africain, qui continue, qui a été écrit en 1956, mais qui continue comme ça aujourd'hui à irriguer toute la littérature africaine. Voilà.
En parlant de dualité, vous vous rappelez que Sartre a écrit « Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande ».
Bon, c'est le type de phrase tout à fait sartrienne. C'est-à-dire que lorsqu'on la déplie, il suffit de l'entendre pour avoir plein de choses à dire. Mais bon, je crois que c'est ce qu'il voulait d'une certaine façon. Ce qui est très curieux avec cette phrase de Sartre, peut-être avec Sartre lui-même, c'est qu'il faudrait lui demander, lui Sartre, s'il a été libre sous l'occupation allemande, ce qu'il a fait. Il y a de grands débats sur la question, je ne l'ignore pas. Mais l'idée de fond intéressante, c'est simplement de savoir qu'on n'est jamais aussi libre que sous une forme d'oppression, sous une forme de contrainte, parce que c'est le moment où on peut être inventif pour résister et pour outrepasser. C'est très hegelien, finalement, et Sartre était très hegelien. Voilà.
En parlant d'oppression, vous avez mis des groupes dans des positions d'oppressés dans Terre Sainte, dans Silence du cœur aussi, et vous avez aussi mis le groupe contre un individu dans votre roman De purs hommes. Alors la question est la suivante, avez-vous foi en l'homme?
J'ai foi en sa capacité de se battre, quelle que soit la situation de contrainte. Je suis peut-être moins optimiste sur la capacité de gagner ou de l'emporter. Mais j'ai foi en cette étincelle qui fait que sous la contrainte, on finit toujours par se débattre, par se révolter, par opposer quelque chose comme une attitude ou une parole. Et l'important, c'est ça, c'est de se battre même et peut-être même surtout quand on sait que le combat est perdu d'avance. Voilà, ça, je suis assez convaincu qu'il faut avoir cette sorte de panache un peu pathétique là.
Fitzgerald serait d'accord.
Fitzgerald serait d'accord, Bolaño serait d'accord, enfin tout un ensemble de gens, je pense. Enfin, on les convoque comme ça de gré ou de force, mais bon, ils sont morts, donc c'est bien.
De force, souvent. Les morts sont souvent, ne donnent pas leur consentement.
Et parce que précisément, vous semblez surpris quand on vous parle de votre livre, vous semblez surpris qu'il plaise, vous semblez surpris de le voir, vous semblez surpris que l'on puisse même parler de prix.
Ah oui, je sais qu'on a parlé du Goncourt, du je sais pas quoi, etc. Mais enfin, c'est parce que je reste convaincu qu'il y a de toute façon plus de médailles que d'écrivains, et qu'un prix littéraire ne demeure jamais qu'un accident, et qu'il ne confère aucune espèce de prestige littéraire ou même commercial à l'auteur tout aussi bien qu'à l'éditeur.
Et si vous aviez le Goncourt, qu'est-ce que vous feriez?
Je respecterai ma réputation de sous-développé.
Mohamed Mbougarsar, en 2021, vous avez publié le roman La plus secrète mémoire des hommes, prix Goncourt, inspiré par le destin de l'écrivain malien Yambo Wologem, mais pas directement sur lui. On l'entend en 68 sur la RTF, juste avant d'avoir le Renaudot. Est-ce qu'en vous étant renseigné autant sur lui, vous l'avez plus ou moins connu? Parce qu'il arrive les deux.
Je l'ai moins connu parce que j'avais un certain nombre de certitudes sur lui avant. Et quand je dis certitude, c'est le type de certitude qui ne vous arrive que par la légende ou la mythologie d'un personnage et que vous pensez vrai. Vous fouillez dans la vie concrète, vous fouillez dans l'œuvre, vous fouillez dans les détails, dans les récits, les témoignages, et vous vous rendez compte qu'en réalité, il n'est rien de ce que vous aviez cru. Et pour Wologem, c'est tout cela. Ce qui est tout à fait normal pour un homme, je pense, dont l'un des plaisirs, l'une des voluptés était d'avancer masqué dans la vie. Et toujours échapper aux attentes qu'on projetait sur lui, que ses attentes vinssent de l'extérieur, donc d'une société qui était la société française, ou de l'intérieur, c'est-à-dire de la société africaine, malienne en l'occurrence, où il avait vécu. Et j'aime beaucoup ce type de personnage-là, puisque, pour revenir à ce que je disais au début, ce sont des personnages de la perte, ce sont des personnages de l'égarement, ce sont des figures comme ça de du vertige. Le sociologue Roger Caillois a écrit un petit texte qui est sur la théorie des jeux, où il dit qu'en réalité, il y a 4 catégories de jeux. Je passe sur les 3 premières, mais la dernière, c'était sur ce qu'il appelait les lynx. Ce sont une catégorie de jeux ou de joueurs qui sont fondés sur le vertige, sur le fait de tomber, sur le fait de s'enivrer, sur le fait d'égarer, d'être égaré dans l'espace. Et je pense que Wologame était un symbole de l'Ilinx. Par son œuvre comme par sa vie, c'est un symbole de l'Ilinx. Après, maintenant qu'il est... On parlait tout à l'heure des morts qui ne consentent jamais. Maintenant qu'il est mort, on peut tout à fait plaquer sur lui beaucoup de choses qui en disent plus sur nous que sur lui. Mais je crois que fondamentalement, c'est quelqu'un qui a toujours aimé les masques. Et il suffisait qu'on en enlève un pour tomber sur un autre. Voilà.
Justement, on va parler de masques et on va parler aussi d'un endroit où vous faites advenir votre livre « La plus secrète mémoire des hommes », Buenos Aires. Il en est beaucoup question ce soir.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Quel est le premier texte que vous avez écrit en commun avec Borges ?
Un brochet sur le yaourt.
Ah oui, vous avez fait donc une page publicitaire sur le yaourt.
Pas une page, 18 pages publicitaires sur le yaourt. Mmh. C'était une promesse de vivre éternellement, le yaourt. Et alors, on s'amusait à faire ça et on a dit un jour, on va écrire des nouvelles. Eh bien, ce jour arrivé 4 ou 5 ans après, 6 problèmes pour un hydroparodie.
Ce sont des énigmes.
Des énigmes, oui. Ah. On voulait écrire des nouvelles policières et on a écrit des nouvelles baroques. On écrivait en parlant à voix haute. Et alors on faisait une blague et une autre blague. Et le texte était une succession de blagues.
Dans vos mémoires, vous n'avez pas. C'est pas un manifeste pour la littérature que vous avez écrit, mais c'est une série de conseils, je crois, que vous pouvez donner à de jeunes écrivains, mais c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en littérature, non ?
Ça, on l'a fait avec Borges.
Ouais. Bon, il y en a une grande liste, hein. Les couples de personnages. Donc vous dénoncez là, Quixote et Sancho, oui. Et Sherlock Holmes et Watson.
Ah, oui, oui.
Vous pensez qu'il faut l'éviter maintenant ?
Non, je ne pense pas qu'il faut l'éviter. Ces prohibitions sont une sorte de blague sur une certaine vérité.
Il y a plusieurs pages de conseils
oui.
Que les jeunes écrivains...
Mais si on prend au sérieux tous ces conseils, on ne peut pas écrire.
Et ça vous a amusé beaucoup de faire ça avec...
Je crois que oui. Ouais. Ça a été ouais. Le moment qui ont fait aimer la vie.
Interview d'Adolfo Bioy Casares sur France Culture en 96 au micro de Jacques Munier. Mohamed Mougarsar, vous signez la préface des œuvres complètes à quatre mains de Borges et Bioy Casares, qui est paru aux éditions Segers dans une traduction de Margot Nguyen Béraud, Eduardo Jiménez et Françoise-Marie Rosset. Alors j'aimerais bien savoir comment est né ce projet et ensuite que vous nous racontiez ce que c'est que cette histoire de yaourt, plus précisément de lait caillé.
Alors, l'histoire de la collaboration avec les éditions Segers est arrivée très simplement puisque le directeur des éditions Segers, Antoine Caro, m'a écrit un jour en me demandant si je voulais bien préfacer les œuvres complètes à quatre mains de Borges et Bioy Casares. Au début, je me suis dit c'est exactement le type de choses qu'il ne faut pas faire parce que c'est précisément... Tout le monde n'étant pas, on en a parlé tout à l'heure, Sartre, c'est-à-dire tout le monde n'est pas capable de faire une préface qui finit presque par recouvrir ou par être en parfaite adéquation avec l'objet qu'il préface. Il a beaucoup fait ça. Moi, j'étais tout à fait tétanisé parce que ce sont deux écrivains que j'aime beaucoup. Borges en particulier est extraordinairement intimidant je crois que l'idée même de préfacer Borges est une nouvelle borgésienne, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un truc comme cela.
Vous aimez son motif du labyrinthe.
Exactement.
Vous l'avez repris.
Je l'ai repris, mais j'étais très heureux de le faire, parce que j'ai toujours considéré que, étant moi-même un lecteur de préface, l'ayant été beaucoup quand j'étais plus jeune, je me suis dit que c'était une manière comme une autre de payer sa dette à des écrivains qui m'ont marqué, qui m'ont touché. Donc je me suis attaqué, je connaissais un certain nombre de textes qu'ils avaient écrits ensemble et j'en ai découvert d'autres pendant le travail. J'en ai redécouvert d'autres, je veux dire par là qu'il y a des textes qui ont été repris, retraduits par Margot Nguyen Béraud. Et ça, c'était une aventure assez extraordinaire. Pas tant d'écrire la préface, mais que de relire et de replonger là-dedans.
Ce texte, alors,
cette histoire
leur première
sur le Lécaillé est assez. Le Lécaillé est incroyable et extraordinaire, puisqu'on imagine les deux qui sont souvent catalogués comme des écrivains très spéculatifs, très métaphysiques, un peu abstraits, mais qui, pour le coup, plongent les mains dans du Lécaillé et se mettent à jouer les battleurs, les vendeurs de Lécaillé. La famille de Bioy Casares possède une entreprise de Lécaillé et c'est pour écrire un prospectus qui sert à la communication pour vendre le lait que les deux s'y mettent. Et il y a des phrases absolument fabuleuses. Et vraiment,
est-ce que vous pouvez nous lire un extrait, justement ?
Je peux le faire. Le Lécaillé nettoie l'organisme de l'homme. En lui, il amplifie la vie. Les plus grandes énigmes se trouvent souvent près de nous, de même que certaines merveilles. L'habitude excuse la conscience. Nous regardons sans voir et, ce qui est pire, en croyant qu'il n'y a plus rien à voir, et nous revenons à l'ancien temps, moins inaccessible que le présent, à la recherche de sphinx et autres merveilles. L'élixir de la longévité, celui des contes et de quelques minces failles dans notre désespoir, est connu de tous, le Lécaillé, en majuscule, aliment de Mathusalem.
Ça, j'ai trouvé ça
absolument dingue. C'est fou de lire ça. On a l'impression qu'ils parlent d'autre chose que de lait. On a presque l'impression qu'ils sont en train d'écrire une sorte de, oui, de, je sais pas, de philosophie du lait, de métaphysique du Lécaillé, et pas du tout de l'aliment. Quelques minces failles dans notre désespoir. Enfin bon, ça veut. C'est exquis, voilà.
Et un paragraphe qui s'intitule après L'homme, pays de microbes. C'est magnifique.
C'est très très beau. Ils ont une façon de s'attaquer aux objets concrets de façon à la fois sérieuse et absolument dérisoire n'est pas l'adjectif, mais ludique et joueuse. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment leur particularité. Et autant dans leurs œuvres, il y a parfois des œuvres respectives, je veux dire, chacun de son côté, il y a parfois des choses plus sérieuses, plus tenues. Autant ensemble, j'ai l'impression qu'ils se stimulent mutuellement dans une veine qui, je pense, était profondément la leur, qui est à la fois extraordinairement enfantine et joueuse, et extraordinairement pointue, savante. Et on ne sait jamais exactement s'ils sont sérieux ou non, et c'est ce qui provoque le trouble et le plaisir de la lecture.
Vous les qualifiez tous les deux d'artistes de l'illusion. Vous en avez fait une hydre bicéphale prénommée Borges. Et alors, si Borges est très connu, pouvez-vous nous dire un mot de l'un peu moins connu Bioy Casares, qui pourtant a fait l'invention de Morel, qui est son roman le plus connu?
Oui. Il y a quelques années, dans une version, une des premières versions de mon propre roman, La plus secrète mémoire des hommes, il y avait tout un passage sur Bioy Casares, qui a finalement été supprimé. Mais je me souviens très bien d'une petite formule que j'avais eue à son sujet, qui était « Bioy Casares, meilleur que Borges sans le savoir ». Bon, c'était peut-être un peu trop osé, mais globalement, ce que je voulais dire, c'est que c'était quelqu'un qui pouvait s'inscrire dans une veine borgésienne, mais qui était plus horrifique, plus paranoïaque parfois. Son roman « L'invention de Morel » a quelque chose d'assez inquiétant, puisque c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve seul sur une île et qui se dit finalement, en explorant cette île, en fait qu'il n'est pas seul, puisqu'il voit des gens qui répètent la même chose, les mêmes scènes, avec les mêmes paroles, au même moment sur l'île, et se demande s'il est fou ou non. Pareil pour un autre de ses textes qui s'appelle « Plan d'évasion », où un individu se retrouve sur une île, mais avec des prisonniers, où il y a une prison. Et finalement, on a l'impression que les prisonniers ne sont pas exactement ce qu'on croit. Donc c'est un écrivain qui a la même facilité que Borges pour la spéculation, pour l'absurde, pour l'ironie, pour le jeu, pour les labyrinthes, mais qui ajoute une dose, je pense, de paranoïaque et qui est plus proche de la folie. Il est peut-être moins poète, certainement, que Borges, joueur que lui. Peut-être un sens plus tenu de la dérision. Mais c'est un écrivain important. Mais son malheur, je pense, est d'avoir toujours été dans l'ombre de Borges. Et c'est pour ça que je suis heureux qu'il soit là, tout à fait avec son nom plein et entier, à côté de celui de son ami et mentor.
Vous connaissez cette musique, Monsieur Spinoza ?
Oui, c'est un tango. Vous savez, Valérie, à mon âge, on apprend à croire qu'on n'a pas envie de dire ce qu'on a envie de dire. Et encore, on trouve ça épatant.
Extrait du film de 1975 « Les Autres » de Hugo Santiago, avec un scénario original de Borges et Bioy Casares et Hugo Santiago. Ils ont beaucoup collaboré, ces deux amis, Borges et Bioy Casares, Mohamed Mbougarsar. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'ils ont fait ensemble et leurs pseudonymes ? Il y en a même un qui avait quand même Lynch dedans, ça m'a fait rire pour l'inquiétante étrangeté.
C'est vrai. Alors, ils ont collaboré sur beaucoup de textes dans des genres très différents. Leur genre de prédilection, c'était le roman policier. Ou
ils
la
dirigeaient
parodie
une collection de
romans policiers. Voilà, ils dirigeaient une collection. Ils ont donc écrit des romans policiers pour la première fois en 1942, qui s'appelait, et on l'a entendu dans l'archive de tout à l'heure, « Six problèmes pour Don Isidro, parodie ».
Parodie.
Le mot est déjà présent dans le nom du personnage principal, qui est un ancien barbier incarcéré et qui résout des enquêtes à partir de sa cellule à la prison nationale de Buenos Aires.
Incarcéré à tort.
À tort. Ce volume, les six problèmes pour Don Isidro Parodi, est signé d'un pseudonyme, en tout cas d'un nom qui s'appelle H. Bustos Domecq. Et pendant très longtemps, l'illusion tient, puisque le public argentin croit que ce H. Bustos Domecq existe réellement, jusqu'à ce qu'on le découvre un peu plus tard, qu'en réalité, c'est un pseudonyme qui a été utilisé par Borges et Bioy Casares. Ils ont écrit deux recueils sous pseudonyme, et ensuite un troisième sous un autre pseudonyme qui s'appelle B. Suarez Lynch, en effet. Et puis, ils ont écrit des scénarios. Certains ont été tournés, d'autres non. Ils ont écrit des sortes d'anthologies de critiques littéraires. Disons qu'ils ont exercé leur talent dans diverses directions avec le même bonheur. Mais globalement, le corpus central, ce sont ces enquêtes littéraires-là, ce sont ces parodies de romans policiers. Et leurs deux principaux pseudonymes ou hétéronymes sont donc Bustos Domecq et Suarez Lynch. Même si la supercherie ou l'illusion étant été défaite, à un certain moment, ils ont fini par signer de leur propre nom, mais en gardant tout de même une sorte d'illusion, de mise en abîme qui voulait que les enquêtes étaient toujours celles de H, pour Honorio Bustos Domecq.
J'en profite pour citer la femme de Bioy Casares, l'écrivaine Silvina Ocampo, qui a signé avec les deux larrons une anthologie de littérature fantastique. Oui.
Thank you.
Morceau ghanéen, Mohamed Mbou Garsar, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, c'est un morceau qui s'intitule Atwera Broba et il a été composé par Ebo Taylor. Ebo Taylor, c'est l'un des grands noms de ce courant musical qu'on a appelé la High Life au Ghana, qui représente d'une certaine manière un pont vers... plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui cette musique nigériane qui est extrêmement connue, qui a été lancée par Fela Kuti. Disons qu'avant Fela Kuti, ou vers Fela Kuti, il y avait Ebo Taylor. Et c'est je trouve ça très beau parce que c'est extraordinairement rythmé. Et on a presque l'impression que c'est une musique qui ne pouvait exister qu'à cette époque-là. En tout cas, qui ne pouvait être créée qu'à cette époque-là, même si évidemment elle a parcouru les siècles. Et ce morceau en particulier, je l'aime beaucoup. Il est très long, on entend des séquences comme ça, des sections pour chaque instrument. Et de façon tout à fait pratique, je l'utilise quand il s'agit de faire cuire des œufs. C'est une bonne mesure, c'est parfait.
Est-ce qu'il dure 3 minutes ?
Non, il dure beaucoup plus longtemps que
ça. Ah, donc
ça.
Vous faites des œufs durs ?
Oui.
Alors là, on entend Doudou Ndiaye Rose, oui. Le morceau Batekene Ndiaye. Et vous avez écrit une nouvelle après sa mort et celle de Vieux Singfai, virtuose des percussions. Quel est votre rapport à la musique ?
C'est un rapport qui est si profond que je n'arrive pas à écrire en musique, par exemple. C'est un rapport très exclusif. J'ai besoin d'être pleinement plongé dans la musique, d'être tout à fait dévoué à elle. Évidemment, en écoutant souvent, j'ai eu la tentation à un moment donné d'en faire, donc d'aller apprendre d'un instrument. Pendant le confinement, chacun a eu, j'imagine, ses lubies. Pour moi, c'était ça.
Quel instrument ?
C'était la guitare basse que j'ai honteusement abandonnée sitôt le confinement levé. Mais elle est toujours chez moi, cette guitare. Elle me regarde, je la regarde, elle est dans sa housse. Et puis un jour, elle ressortira, je l'espère. Mais voilà, j'ai un rapport très... C'est que même quand je vois apparaître une musique ou les paroles d'une musique dans un texte, que cette musique soit réelle ou tout à fait fantasmée, imaginaire, j'ai envie de l'entendre et je la compose dans mon esprit, dans ce volume des œuvres à quatre mains. Il y a un moment où un tango apparaît, où il y a les paroles d'un tango qui apparaissent dans l'une des nouvelles. Et je modèle pour la mort, et je me suis mis à l'imaginer sans l'avoir jamais entendu. Je ne sais pas du tout si ce tango existe toujours et entendable ou non, mais dans mon esprit, il existe. Donc voilà.
Et vous aimez ne pas avoir la réponse ?
Ben, j'espère... Oui, c'est ça. Et j'espère un peu que tout le monde est dans cet état d'esprit-là. Pas tout le temps, en tout cas. Voilà. Il ne faut pas tout le temps avoir de réponse.
Je vous ai demandé... des découvertes pour les auditeurs et vous avez fait vos choix selon les 4 saisons. Alors je vous cite, la fréquentation automnale de la programmation du Festival d'automne, la lecture hivernale de O du Finlandais Mikki Liukkonen, la lecture printanière des 9 essais sur Dante de Borges, et ceci, et vous allez avoir la parole après, j'espère que vous avez une bonne mémoire.
No sé que tienen las flores, llorona. Las flores del campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece
Et pour l'été, Mohamed Mougarsar, c'est l'écoute estivale de Chavela Vargas. On entend son morceau La Llorona. Vous voulez parler de qui en premier?
Sur les quatre, vous voulez dire?
Oui.
On va commencer par Chavela Vargas. Je crois que ce qui est toujours très étonnant, c'est que sous cette mélancolie, cette forme de douceur, il y a beaucoup d'inquiétude dans ce morceau, j'ai l'impression. Et évidemment, le personnage de la Llorona, qui est une figure de la mythologie mexicaine, mais qui parcourt beaucoup de pays d'Amérique du Sud, mais au Mexique en particulier, est une figure à la fois terrifiante, sublime, mais aussi très triste.
La pleureuse.
C'est la pleureuse, tout simplement. Et c'est une femme qui revient la nuit et qui est reconnaissable par des sanglots, mais qui est terrifiante dans cette nuit-là. Et lorsque je suis allé au Mexique, il y a un certain nombre de représentations de la Llorona. Et ça m'a rappelé d'ailleurs un des contes de ma grand-mère, de mon enfance. Voilà, on retombe comme ça des choses. Et Chavela Vargas, c'est Chavela Vargas. Je ne développe pas plus sur elle, mais cette voix, ce grand, je pense qu'il est assez unique et reconnaissable. Alors, j'étais d'humeur un peu vivaldienne ce jour-là. C'est pour ça que j'ai divisé la chose en quatre saisons, j'imagine. J'ai parlé de Mikki Liukkonen, qui est un auteur finlandais qui n'est pas très connu, ou pas encore en France. Mais son œuvre magistrale s'appelle O. Ça a paru dans la maison d'édition dont le nom est le plus superbe qui soit, le Castor Astral. Et au Castor Astral, il y a donc cette traduction de O ou zéro. On ne sait pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un cercle. Et c'est difficile à résumer. C'est 100 personnages sur une semaine. Et chacun de ces personnages-là est atteint d'une névrose particulière, très contemporaine. Et Mikki Liukkonen a eu comme ça le projet, l'ambition de faire une sorte d'autopsie de notre temps, mais par ces névroses et par le fait qu'aucun de nous n'est tout à fait préparé à subir les stimuli nombreux de notre époque. Donc voilà, c'est assez fascinant. C'est un roman fleuve. En plus, il est orange. Voilà, vous verrez quand.
Il est très
beau. C'est un argument. J'ai parlé de la programmation du festival d'automne, qui est très belle, qui a déjà commencé.
On peut aller voir sur Internet, sur le site.
Tout à fait, aller voir sur Internet. Et j'ai parlé donc de Borges, qui commente Dante. Pour une raison toute simple, c'est qu'on peut lire Dante, bien sûr, et c'est beaucoup mieux de commencer par le texte, mais il y a des passages de Dante que je n'ai jamais compris ou qui ne m'ont jamais intéressé, mais que Borges éclaire à sa manière, c'est-à-dire de façon tout à fait prime sautière, élégante, fragmentaire aussi. En fait, je ne suis pas certain qu'il ait fini, qu'il ait lu la Divine Comédie du début à la fin. Mais il arrive à en dire des choses qui sont absolument admirables. Voilà.
On revient à des choses labyrinthiques. Il nous reste quelques secondes pour une autre découverte. Est-ce que vous voulez bien nous parler d'un livre qui a compté pour vous adolescent? C'est La Plaie du Sénégalais Malik Fall, sorti en 67.
Oui. Alors, c'est un roman qui est difficile à trouver aujourd'hui, mais je le dis tout de même pour les gens qui seraient des chineurs fous. C'est un roman qui a été pour moi fondamental parce que pour la première fois, je pense que c'est dans ce roman-là que j'ai compris ce que la colonisation laissait comme séquelles, à la fois physiques et mentales. Et ça, c'était bien avant de lire Frantz Fanon, Albert Memmi et Edouard Saïd et tous les grands théoriciens postcoloniaux qui ont insisté aussi sur la dimension psychique de la chose. Malik Fall reste sur un roman et ce personnage central dans La Plaie, Magamou, est une sorte de Christ. D'ailleurs, la question de La Plaie, le motif de La Plaie est assez christique. C'est un homme qui est blessé à la cheville et cette blessure-là fait à la fois de lui un individu tout à fait répugnant et un individu divin qu'on va chercher. Et lui se meut comme ça dans la société sénégalaise juste après les indépendances, donc juste après le départ de la colonisation. Et c'est tout à fait admirable parce que je n'ai jamais vu un écrivain sénégalais être à la fois dans cette élégance de la grande prose française, mais aussi dans le langage, dans les métaphores wolof, dans toute leur verdeur et toute leur crudité, et tout ça est mêlé. C'est un très bel écrivain.
Eh bien, j'espère qu'il y a des chineurs fous parmi les auditeurs, mais je n'en doute pas. Merci beaucoup, Mohamed Mougarsar.
Merci Eva Bestar.
Votre préface des œuvres complètes à quatre mains de Borges et Bioy Casares est parue aux éditions Segers. Cette émission a été réalisée par Mathias Volant, préparée par Céline Villegas, Alexandra Conet et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Gaspard Guy Bourget.